Vous écoutez le son de la Terre. Bonjour à tous, mon nom est Vincent Cauchy et je serai votre hôte pour votre balado agricole Le son de la terre. Dans cet épisode à saveur printanière, on fait la rencontre d'un couple d'apiculteurs de la région de Portneuf, Christina Fortin-Ménard et David Lee Desrochers de l'entreprise Miel Éco. Ils ont lancé un mouvement pan-québécois, le défi Pissenlit, auquel ont adhéré des dizaines d'entreprises et de municipalités à travers le Québec. Ils vont nous parler également de leur production de miel, des taux de mortalité anormalement élevés, ainsi que de la genèse de leur entreprise. Et bien sûr, de leur couple. Mais tout d'abord, on parle d'euthanasie à la ferme, de formation vétérinaire, d'une planche de salut pour l'industrie du lait de chèvre, ainsi que de la saison de la production maraîchère qui s'amorce avec Myriam Laplante El-Haïli, journaliste à la Terre de chez nous. Sur ce, je vous souhaite une bonne émission. Alors maintenant, vous devez commencer à être habitué avec notre modus operandi au son de la terre. Alors, comme pour les épisodes précédents, on va faire un petit survol des actualités agricoles des dernières semaines. Et pour ce faire, j'ai invité Myriam Laplante El-Haïli, qui est journaliste à Terre de chez nous, pour discuter de divers sujets. On a un menu assez varié aujourd'hui, donc on va plonger dès maintenant. Tout d'abord, bonjour Myriam, ça va bien?
Salut Vincent, oui, ça va toi?
Oui, ça va très bien. Premier sujet peut-être un peu plus costaud duquel on va discuter. On parle d'euthanasie à la ferme et de changements qui risquent de s'opérer dans les prochaines années. Donc, tu t'es commis dans un reportage sur cette question-là dans les dernières semaines. Peux-tu m'expliquer un peu c'est quoi les changements qui risquent de s'opérer en 2023?
Alors en fait, Vincent, oui, dès le début de 2023, l'entreprise Sanimax a annoncé qu'elle ne récupérerait plus les carcasses qui sont euthanasiées avec des barbituriques. Des barbituriques, on le sait, là, dans le milieu agricole, ce sont des narcotiques, des médicaments qui sont utilisés pour euthanasier de façon douce, entre guillemets, les animaux. Et puis bon, ben, à cause des traces de médicaments qui pouvaient rester dans la carcasse après la revalorisation de la matière, il y avait des problèmes. Alors, Sanimax a pris la décision de ne plus ramasser ces carcasses-là. Et ça donne un peu, je vais t'avouer, un coup à la façon de faire. En fait, l'euthanasie change carrément de visage à la ferme. Là. Maintenant, il va falloir euthanasier les animaux grâce à d'autres méthodes.
Des façons alternatives.
C'est ça, exact.
Puis à moins que je me trompe, tout ce qui était administration de barbiturique, c'était exclusivement l'apanage des vétérinaires, des médecins vétérinaires.
Tout à fait, tout à fait. Le producteur ne pouvait pas le faire lui-même à la ferme. Il fallait que ce soit son vet qui vienne le faire. Maintenant, on va devoir utiliser un pistolet percuteur, une arme à feu. Ça peut être dépendamment de l'animal, bien sûr, de l'élevage, de l'âge, de la taille, du poids. Il y a différentes méthodes qui vont pouvoir être utilisées, mais chez les vétérinaires, ça crée un peu un malaise parce que c'est le pistolet percuteur qui reste le deuxième outil.
Le deuxième outil de prédilection,
voilà,
si on veut. Là.
De prédilection. Puis c'est sûr que c'est comme un peu considéré comme moins doux. Hein. On va percuter l'animal, il faut être sûr d'avoir le bon angle. Et il faut le faire de la bonne façon. L'animal va ne va pas souffrir, premièrement. On tient à le préciser, là, parce que ça va en fait entrer, entre guillemets, dans son cerveau et ça va lui donner causer instantanément la mort cérébrale. Exact. Mais par contre, il va être pris de convulsions après ça. Puis, bon, bien évidemment, c'est à cause des réflexes nerveux, là. C'est pas parce que l'animal souffre, mais ça peut être un peu dérangeant.
Par contre, il y a un élément à mentionner, c'est que aussi le Puis ce répercuteur peut être utilisé pas seulement par le vétérinaire, contrairement aux barbiturique, qui peuvent seulement être administrés par le vétérinaire. Est-ce qu'il y a de la formation qui est donnée à ce niveau-là? Parce que j'imagine qu'il va y avoir des producteurs qui vont peut-être changer aussi leur fusil d'épaule, là, c'est peut-être un mauvais jeu de mots, mais qui vont peut-être décider de procéder eux-mêmes aux euthanasies à la ferme.
Oui, exactement. Alors, écoute, il y a plusieurs choses qui sont en branle en ce moment, parce que la décision de Sanimax, elle est venue un peu chambouler tout le monde. C'est monté jusqu'au ministère, c'est monté jusqu'à la faculté de médecine vétérinaire. On s'est dit, OK, il faut former les vétérinaires à utiliser cet appareil-là, et il faut former les producteurs à l'utiliser aussi, parce qu'ils peuvent le faire à la ferme. Alors, c'est ça, dans le MAPAC, s'est dit... En fait, a su que l'Association de médecins vétérinaires praticiens avec la Faculté de médecine vétérinaire de l'UDM était en train de préparer justement une formation sur l'euthanasie au pistolet percuteur pour les vets. Ça devrait être dispensé prochainement. Là, on aimerait que les premiers producteurs là, qui soient formés par ces nouveaux vétérinaires formés puissent l'être à l'automne 2022 dans les bovins. Donc, ça va très vite tout ça. Là. Ça avance bien. Et c'est pas seulement les bovins aussi, je tiens à le préciser, là, ça va être les petits ruminants aussi à l'hiver 2023. Là. Donc c'est ça. Puis ben, ce projet pilote-là, ça va être, je tiens à le dire, pour les producteurs, c'est entièrement subventionné par le MAPAC. Ils n'auront pas une scène à débourser pour cette formation-là. Le déplacement du VET va être payé par le programme PISAC. Puis justement, c'est un projet pilote qui était dans les Hautes-Laurentides. On essayait de C'est comme une région qui a une moins bonne couverture vétérinaire, fait qu'on essayait de faire en sorte que les producteurs soient en mesure de faire certains actes eux-mêmes. Mm-hmm. Puis avec l'annonce de Sanimax, ben là, les gens se sont dit, OK, il faut qu'on soit... Tu sais, on va sortir le volet euthanasie de cette formation-là, de ce programme-là qu'on est en train de faire, de ce projet pilote. Et puis, ben, ils ont enclenché le pas pour que tout soit prêt peut-être à l'automne 2022.
C'est quelque chose qui se faisait déjà, mais là, c'est sûr que c'est peut-être un peu précipité par cette décision-là de la part de Sanimax. On va rester dans le même sujet. Tu mentionnais, c'est sûr que dans les Hautes-Laurentides, par exemple, c'est un endroit où c'est plus difficile d'avoir des vétérinaires. Il y a la formation vétérinaire est encore assez limitée, si on veut, au Québec. Là, il n'y a pas beaucoup de vétérinaires qui sortent des facultés quand même. Par contre, il y a certains changements qui s'opèrent là, un peu dans le grand monde de l'éducation vétérinaire.
Exact. On le sait, hein, le programme est très contingenté. C'est seulement la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal à Saint-Hyacinthe qui offre ce programme-là. C'est 96 étudiants par promotion et on le sait, il y a en parallèle une pénurie de vétérinaires. Donc, il fallait trouver des moyens de former plus de monde ou bien de pallier à ce manque-là sur le terrain. Québec a donné son aval dans le dernier budget à la formation vétérinaire, ouvrir une faculté de médecine vétérinaire satellite à Rimouski. Okay. À Lucar, dans le fond, l'Université du Québec à Rimouski. Et ça, c'était quelque chose d'inespéré. Là, on en parle depuis 2 ans. Puis finalement, Québec accorde les fonds là, pour ce projet-là. Donc,
là, on parle de ça. C'est combien d'étudiants à peu près qui s'ajoutent aux 96?
25. 25 par cohorte.
OK, quand même. Donc, oui. C'est le quart qui va venir de Rimouski.
Exact. Puis là, on est en train, bien sûr, d'essayer d'arrimer là, les façons de faire. Donc, à date, là, on pense que les 3 premières années du programme vont se dérouler sur les campus respectifs. La 4e année de formation se fera pour les 2 cohortes sur le campus de Saint-Hyacinthe. La 5e année, on pense que les étudiants de Rimouski pourraient faire 50 % de leur stage dans des régions identifiées comme, entre guillemets, vulnérables ou fragiles, par l'étude du MAPAC qui avait dessiné le portrait des services vétérinaires en 2020. Puis la 5e année, ça reste encore à déterminer pour les étudiants de Saint-Hyacinthe. Là. Donc, on comprend que c'est un peu embryonnaire, mais il y a espoir, puis les gens ont l'air d'être mobilisés pour faire avancer ce dossier-là.
Puis on s'attend à un départ de ce programme-là pour à quel moment? Est-ce que ça va être dès l'automne prochain ou il y a quand même une mise en place?
Bien, c'est sûr qu'il va falloir construire. Hein? Il y aura une nouvelle construction et le réaménagement de l'espace au campus principal de l'UQAR. Là. Alors, le ministre de la Montagne parlait de l'automne 2023 pour la première cohorte qui commencerait, mais c'est sûr que le président de l'Ordre des médecins vétérinaires, Gaston Rioux, lui, trouve ça pas mal optimiste parce qu'il faut construire tout ça, puis il faut trouver le personnel dans une industrie qui est déjà en manque de vétérinaires, de personnel. Alors, il met un peu le bémol. Là.
Oui, parce que les formateurs vont être des vétérinaires
forcément,
aussi.
Forcément, ben oui, c'est ça. Ou des professeurs, ou il faut engager du monde. Je veux dire, ça prend du temps, là, tout ça. Là. Alors, est-ce que ça sera 2023? On ne le sait pas.
Il y a un autre domaine où l'avenir a l'air beaucoup plus intéressant que ce qu'il était au cours des dernières années. On parle du lait de chèvre au Québec depuis, ça fait déjà plusieurs, comme je le mentionnais, plusieurs années qu'on en parle, qu'il y a eu des difficultés principalement au niveau des transformateurs. Par contre, là, il y a une nouvelle qui est arrivée dernièrement quand même d'un intérêt chez nos voisins ontariens, mais qui nous affecte nous aussi. Je ne sais pas si tu peux m'en parler un petit peu, Myriam.
Ben oui, tout à fait. Dans le fond, Vincent, oui, écoute, ce qui se passe dans le lait de chèvre, c'est vraiment un game changer. Vraiment, là, la nouvelle usine s'appelle Canada Royal Milk. Elle est à Kingston, en Ontario. C'est une division de la compagnie chinoise Feihe International. Puis, honnêtement, dans le lait de chèvre, là, entre toi et moi, il était temps que ça bouge un petit peu, là, puis je suis bien contente pour eux, parce que ça fait six ans que je couvre ce secteur-là, puis ça fait 6 ans que ça va mal, c'est en dents de scie, les transformateurs, les acheteurs décrochent les uns après les autres, les volumes diminuent à chaque année, les volumes produits, parce que pour plusieurs raisons, mais... Ça va mal.
Les fermetures aussi.
Les
là,
fermetures d'usines. Agropur, qui avait fermé son importante usine de transformation de fromage à Saint-Damase, là, en Montérégie. Alors oui, ça allait mal. Puis en 6 ans, la moitié des producteurs ont quitté.
OK, c'est énorme.
Il en reste 34 aujourd'hui. Alors là que Feihe arrive puis décide de faire une entente avec exclusivement les producteurs ontariens et québécois, c'est vraiment la planche de salut, là. Franchement, on est content pour eux.
Puis on parle d'une... Non seulement on parle de volume aussi, là. C'est ça qui est quand même intéressant, là. De visiter cette usine-là, de quoi ça a l'air exactement?
Bien écoute, c'est grand, évidemment, c'est tout neuf, hein. Donc moi, je suis allée à Kingston visiter ça, ils faisaient une conférence de presse et évidemment, c'est tout beau. Les locaux sont presque trop grands, vides. Il n'y a pas encore beaucoup de fournitures. Mais tu rentres là et c'est quand même à la fine pointe. C'est impressionnant. Tu rentres dans un grand couloir, là, puis un couloir fait expressément pour les visiteurs, là. Tu rentres dans un couloir, puis à droite, à gauche, il y a des fenêtres. Puis plus tu avances, plus tu vois les différentes salles. L'arrivage du lait, la pasteurisation du lait, puis ensuite tu vas aller à la transformation, à l'évaporateur qui va transformer ça. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais...
C'est de la poudre.
C'est de la poudre de lait maternisé. Ils font du lait pour bébé en poudre à base de lait de chèvre et de lait de vache, mais principalement lait de chèvre. Puis leur marché d'exportation, c'est d'abord la Chine, puis ensuite, dès l'année prochaine, ils voudraient commencer à en faire pour le Canada, en tout cas. Là.
OK.
Ouais. Alors, on en retrouvera sur le marché ici aussi, éventuellement. Là.
OK.
Donc ça va être intéressant. Mais pour les producteurs, ici, on produit en ce moment 6 millions de litres. Puis là-bas, la demande, ça serait 230 millions de litres par année. C'est énorme, là.
Mais les 230 millions de litres, c'est les fermes québécoises et ontariennes.
Bien sûr. Okay. C'est un marché commun, là. Tout à fait. Mais reste que va falloir que les producteurs, va falloir qu'il y ait plus de producteurs, qu'ils agrandissent les troupeaux, il faudra que les volumes augmentent. Ouais. Puis Feihe vise une augmentation de 15 à 20 par année de production. Là. Donc,
jusqu'à concurrence du 230 millions dont on parle.
Pour l'instant, on a une entente de 5 ans signée avec les producteurs québécois. Puis quand j'ai parlé au directeur général de l'usine à Kingston, il me disait que... C'est sûr qu'il y aura une autre entente de 5 ans par la suite, là, parce qu'ils veulent vraiment atteindre leur volume. Là.
Le lait de chèvre n'est pas sous gestion de l'offre. Il y a un enjeu aussi au niveau des surplus de lait lorsqu'il y en a. Là. Bon, là, visiblement, je comprends que des surplus, du moins dans les débuts, ils risquent de ne pas en avoir beaucoup.
Ouais.
Mais advenant qu'il y ait des surplus, qu'est-ce qui se passe avec ça?
Mais écoute, c'est super intéressant, comme tu dis, parce que les éleveurs, ils essaient toujours d'arrimer l'offre aux besoins, même s'ils ne sont pas sous gestion de l'offre. Mais pendant les périodes d'été puis printemps, il y a des périodes de pointe. C'est les agnelages. On en a plus qu'il faut. Alors c'est ça. On aura la possibilité maintenant d'envoyer ces surplus de lait chez Féé, qui va les acheter, qui s'est engagé à les acheter déjà. Comme disait Christian Dubé, l'ancien président, là, il dit « ça fait 27 ans que je suis en production, ça fait 27 ans qu'on se demande ce qu'on fait avec les surplus puis qu'on n'a jamais de solution. » Alors voilà, il a une solution maintenant.
Et là maintenant, il a la réponse, il a une solution. Ah ben, c'est très intéressant tout ça. Honnêtement, ça devait être une super belle visite d'aller voir cette usine-là. Là. Ça devait être à la fine pointe.
Non, exact, exact. Puis tu sais, l'usine va rouler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu sais, elle va être capable de stériliser 40 000 litres de lait de chèvre par heure. Okay. Rends-tu compte? C'est énorme. Wow. C'est énorme. Puis après ça, ils vont transformer, eux, 30 000 tonnes de poudre de lait par année. C'est ça l'objectif, là. Obtenir ce montant-là.
De produire 30 000 tonnes.
Oui.
Puis, comme tu disais, pour être au début exporté vers la Chine, qui, j'imagine, a un énorme marché. Là, donc,
tout à fait. Puis, certains le savent, mais il y a beaucoup de bébés chinois qui sont intolérants, ou bébés même ici, hein, qui sont intolérants au lait de vache ou à la protéine bovine. Donc, c'est une super bonne alternative d'avoir du lait de chèvre pour ces bébés-là. Voilà. Puis sinon, écoute, je voulais juste une petite mention sur l'espèce de salle de stockage parce que c'est énorme. Tu sais, tu la vois par la fenêtre, elle fait presque 3 étages de haut. Puis c'est le personnel qui était là sur place nous expliquait que c'était à la fine pointe. Là, c'est automatisé complètement. Il n'y a presque personne qui est dans cet entrepôt-là. Puis c'est de la qualité d'Amazon.
Puis est-ce que c'est de l'entreposage du produit fini empaqueté ou c'est le produit brut?
Ça, c'est une bonne question. Ils ne nous l'ont pas dit, mais d'après moi, ce sera les deux. D'après moi, ce sera les deux. Que ça pourra faire les deux. Mais ça va avoir une capacité d'entreposage de 80 000 tonnes.
OK.
C'est quand même...
Oui, et puis c'est pas non plus, tu sais, là, on parle de Féé international. C'est sûr que pour nous, ici, au Québec, au Canada, ça nous dit pas grand-chose. Mais tu sais, c'est quand même... c'est une entreprise qui se situe au premier rang des vendeurs de lait maternisé, là, donc mondial. Là. Ouais. Donc, c'est pas une petite entreprise. Là. Donc,
non, tout à fait.
Pour les producteurs de lait de chèvre, c'est vraiment... Ça assure une certaine pérennité pour au moins, au minimum les 5 prochaines années. Puis après ça, ce sera à voir. Mais l'usine sera encore là dans 5 ans. Donc, j'ose espérer que c'est...
Puis la preuve un peu de, si tu veux... de confiance qu'ils ont envers les producteurs. Ils ont fait venir l'ancien président de la Commission canadienne du lait, Jacques Laforge, sur leur conseil d'administration en Chine.
OK.
Oui, donc ce monsieur-là les guide, les aide pour aider les producteurs ici, aiguiller. Ils ont l'air d'être vraiment patients, de vouloir aider les éleveurs ici, puis ils insistent sur avoir du lait canadien-québécois. Je pense que là-bas, ça doit être très vendeur. Une grande marque de confiance envers nos producteurs d'ici. Là. Alors, je pense que c'est vraiment, que je disais au début, c'est un game changer, c'est vraiment un game changer.
Ah ben oui, vraiment. La température est très, très clémente ces derniers temps. Et puis, bon, j'imagine que la plupart qui nous écoutent, si vous nous écoutez près du moment de la diffusion, sont dans le champ en ce moment, en train de semer. C'est la période des semis, c'est la période aussi des récoltes déjà pour certaines productions. Peux-tu nous faire un petit topo de ce qui se passe en ce moment dans les champs?
Ben écoute, les asperges, là, ça bat son plein. Là. C'est un peu la folie. Là. On a eu une grosse chaleur le 11 mai, aujourd'hui aussi le 12, puis ça pousse à vue d'œil. Ma collègue Caroline est allée faire un tour dans Lanaudière hier, puis elle dit que c'était fou là-bas. Là. C'est vraiment... D'ailleurs, on salue les producteurs d'asperges dans le jus en ce moment.
Oui, c'est ça, parce que la production d'asperges, on parle de presque 2 à 3 récoltes par jour.
Tout
là,
à fait.
Donc,
tout à fait, tout
c'est
à fait.
C'est quelque chose d'assez rock'n'roll, comme on dit.
Puis le stock a l'air beau. Elle dit que, par contre, ça n'a pas commencé partout. Ça a commencé fort dans Lanaudière, mais pas dans toutes les régions. Centre du Québec aussi, ça a l'air d'être pas mal fort. Là. Puis ça devrait peut-être continuer comme ça si la température reste clémente pendant un mois. Là, ça s'arrêterait vers la mi-juin à peu près. Okay. Là. Elle dit que dans les autres productions, les primeurs, ça a connu un départ tardif à cause du temps froid. Mais là, en ce moment, c'est le gros, c'est le gros blitz là, dans les oignons, la laitue. Ouais. Ça a commencé vraiment. Le coup d'envoi est donné.
Parfait. Ben, on va en profiter aussi pour souhaiter une bonne saison des semis à tous les producteurs qui sont au champ. Peu importe votre production, on vous souhaite que ce soit une belle saison 2022.
Tout à fait. Pas de sécheresse, beaucoup de plaisir.
Exactement. Des longues heures. On n'a pas le choix. Mais...
C'est sûr.
Excellent. Ben, merci beaucoup, Myriam, pour ta participation. C'est toujours
plaisir.
Très apprécié.
Grand plaisir.
Le printemps est enfin arrivé. Pour certains, ça marque le temps des semis. Pour d'autres, comme Christina Fortin-Ménard et David Lee Desrochers de Miel Éco, c'est le temps d'ouvrir les ruches. Pour donner un maximum de chance à leurs abeilles, le couple a décidé d'aider un peu Mère Nature en lançant le défi Pissenlit en cours pendant tout le mois de mai. On les reçoit pour en jaser et aussi pour parler de leur entreprise située à Portneuf. Alors, bonjour Christina et David, comment ça va?
Bonjour!
Allô, ça va très bien.
Cette année, ça marque la deuxième année du défi Pissenlit. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu de quoi il s'agit? C'est quoi les grandes lignes de ce défi-là?
Oui, en fait, le défi Pissenlit, c'est le défi le plus simple du printemps. On invite toute la population du Québec à retarder un peu la tonte de leur gazon pour offrir les pissenlits aux insectes pollinisateurs et aux abeilles pour leur fournir de la nourriture au printemps, alors qu'ils sortent d'un hiver assez long pour qu'ils puissent refaire leurs réserves, se nourrir de nectar et de pollen.
Puis comment est-ce que vous avez eu l'idée de lancer ça comme ça?
Mais l'idée nous est venue au tout début de Miel Éco. Nos clients nous demandaient souvent comment aider les abeilles. Et ils cherchaient des façons compliquées. Alors que parallèlement, nous, on voyait au printemps les gens qui se dépêchaient de tondre leur gazon. Fait qu'on s'est dit, on va proposer aux gens tout simplement d'offrir leur pissenlit, des fleurs aux abeilles pour les nourrir. Fait que c'est l'idée vient de nos clients, en fait, qui cherchaient une façon d'aider les abeilles.
Et puis, l'année passée, quand vous avez lancé ça, est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il y ait un engouement à ce point-là? Là? Ça a vraiment explosé?
Non. C'était vraiment une idée super simple qu'on a eue, puis on a lancé ça assez naïvement. Puis on était assez rapidement surpris de l'ampleur que ça a pris. Puis vraiment très, très content là, de voir que la population du Québec était rendue là à changer de mentalité, d'abandonner un peu l'idée du gazon vert parfait pour, en fait, offrir des fleurs pour nourrir tous les pollinisateurs.
Puis est-ce que ça vous a demandé un peu plus d'organisation cette année? Une fois que vous avez vu à quel point ça a levé l'année passée, est-ce que ça a pris un peu plus d'ampleur de votre côté?
Oui, absolument. L'année passée, on a pondu ça en 2 semaines. Super simple. Cette année, on a commencé en janvier à préparer le défi Pissenlit de la deuxième édition. Et donc, on a invité les villes, des entreprises à s'inscrire. Et puis, ça a vraiment ça a payé de toute cette préparation-là, là, parce que là, cette année, là, on approche de 150 villes et entreprises du Québec là, qui se sont inscrits officiellement au défi Pissenlit.
OK, quand même. Là. Donc, c'est ça, il y a beaucoup d'organisations qui se sont joints, qui ont embarqué dans Parane, puis ça a vraiment fait boule de neige. Puis il y en a des grosses là-dedans. Là. On a vu la Ville de Québec. Est-ce que c'est quelque chose à quoi vous vous attendiez aussi un peu? T'sais, on s'entend qu'il y a certaines villes, certaines municipalités aussi de banlieue parfois. Là, le gazon, c'est important, il faut que ça soit coupé ras. Mais d'avoir les municipalités qui embarquent là-dedans puis qui suggèrent à leurs citoyens de laisser ça pousser. À quel point est-ce que c'est le fun de voir ça?
On est vraiment contents. C'était dans notre rêve, là, c'est ouais. Que toutes les villes embarquent, évidemment. Là. Mais d'avoir des grosses villes comme Québec, comme là, tantôt, on a reçu un courriel de l'aéroport de Montréal qui embarque aussi. Tu sais, okay. des grosses organisations comme ça, eh bien là, on se rend compte qu'on est en train quand même de changer quelque chose là, dans la mentalité, là, de... fait que on est très, très contents.
Oui, c'est ça, ça passe presque au-delà d'un, ben, j'allais dire d'un simple mouvement, là, mais ça peut devenir justement un changement qui va être pérenne chez les gens qui vont faire ça à chaque mois de mai. Là. En fait, c'est ce qu'on souhaite. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous avez reçu notamment l'appui de l'UPA. Bon, on sait à quel point le Saguenay, pour les notamment les bleuets. Quelle importance est-ce que les insectes pollinisateurs, comme les abeilles ou autres insectes, occupent dans le développement de notre agriculture?
Ben, tu sais, en fait, l'abeille va... notre alimentation va dépendre... le tiers de notre alimentation dépend de la pollinisation. Donc, en partant, il y a quand même une très grande partie de notre assiette, là, au niveau d'une assiette diversifiée, qui va être touchée par la pollinisation. Parlant du lac Saint-Jean, les bleuetières, eux autres, c'est justement c'est 90 % quand même de la production là, qui dépendent d'une bonne pollinisation. Donc, dans leur cas, là, ça les touche là, directement. Puis, on a d'autres productions aussi, bon, les pommes, les cucurbitacées, on a aussi les canneberges, à part tout le reste des petits fruits là, qui se joignent là-dedans. Donc vraiment, là, au niveau du Québec, là, la pollinisation, en fait, l'abeille est dépendante de ces productions-là et vice-versa aussi.
Puis, à quel point est-ce que c'est important? Bon, là, on... c'est les premiers rayons de soleil du mois de mai. Là, on a eu une. Je ne sais pas dans votre coin, mais ici en Montérégie, on a eu une semaine assez extraordinaire. Pourquoi est-ce que c'est important pour les abeilles au sortir de l'hiver d'avoir accès rapidement à des sources de pollen puis des sources de nectar comme ça?
Oui, bien en fait, c'est que durant tout l'hiver, bon, il n'y a pas naturellement, il n'y a pas d'entrée de nectar naturel ou de pollen. Donc, rendu au printemps, souvent les colonies sont quand même épuisées d'avoir de s'être entretenues, on va dire, pendant l'hiver. Ouais. Donc, aussitôt qu'on a une abondance de pollen naturel et puis de pollen puis de nectar, ben, ça vient vraiment renforcer le système immunitaire aussi. Les propriétés là, vivantes qu'on va retrouver, bien, ils vont venir vraiment là, redonner un gros, gros boost aux colonies. Fait que les colonies vont pouvoir se remettre à démarrer, vont refaire du couvain. Vraiment, là, on repart, ça repart vraiment en grain là, dans ce cas-là.
Puis on parle de quelle date à quelle date environ où on abrille les ruches?
Oui, bien ici, nous, on est plus au nord, là, un petit peu plus froid que dans votre secteur, mais on emballe pour le 1er novembre. Puis normalement, tu vois, aujourd'hui, là, encore, on est en train de finir de déballer les ruches.
Okay.
Donc, on part de novembre aller jusqu'à mai, là, plus ou moins.
OK. Donc, les pissenlits ont le temps de sortir, puis c'est pas mal les premières de ce qu'on envoie, là, puis de ce qu'on. C'est pas mal les premières fleurs à sortir, de toute façon. Là.
Oui, c'est ça, exactement. De fleurs en abondance. Sinon, il y a quand même les arbres qu'il ne faut pas négliger. Là. On a les érables qui vont produire beaucoup de pollen et de nectar aussi. On a aussi le saule qui est présent très tôt en saison. Mais vraiment, en abondance, partout au Québec, c'est vraiment le pissenlit là, qui détrône.
Puis c'est aussi là où, j'imagine, vous parliez de vos clients, mais c'est là aussi où le commun des mortels peut aussi faire sa part comparativement à des arbres. Là. C'est pas tout le monde qui a la place pour avoir des arbres, mais des fleurs, c'est toujours plus intéressant. Pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient en savoir plus sur le défi ou encore pour se procurer des éléments pédagogiques, là, j'ai vu que vous aviez plusieurs éléments. À quel endroit est-ce qu'ils peuvent trouver ça?
Ils peuvent aller sur le défipissenlit.com et puis sur le site, on a des petites affichettes pour mettre dans le gazon pour les gens qui veulent indiquer à leurs voisins pourquoi ils retardent un peu la tente. On a préparé des activités pédagogiques, tu le disais. Donc, les écoles, les garderies qui veulent partager avec les enfants sur l'importance des insectes pollinisateurs. On a aussi fait créer un coffret de semences, de plantes mellifères. Donc, les gens qui veulent pousser un petit peu plus loin, donc fournir de la nourriture aux abeilles après les pissenlits, bien, on a sélectionné les plantes qui vont les nourrir. Donc, c'est ça. Au défipissenlit.com, il y a toute la variété là, de produits et d'informations qu'on a créées pour le mouvement.
Parfait. Question peut-être niaiseuse pour des apiculteurs, mais c'est quoi le rayon d'action d'une ruche pour aller chercher le pollen?
Oui, bien, en fait, effectif, on va dire, de 1 à 2 km. Okay. Donc, au-delà de ça, les abeilles peuvent aller voyager jusqu'à 10 km, mais on s'entend, c'est que rendu là, ils s'épuisent, en fait, pour amener des ressources. Donc, vraiment, on regarde toujours dans le premier kilomètre et jusqu'au deuxième, puis c'est ça là, qui est vraiment le champ vraiment d'action, c'est ça, efficace pour une ruche.
OK. Donc, on peut toujours s'attendre à en trouver une entre 1 et 2 kilomètres. Donc, pourquoi ne pas faire sa part? C'est si facile de laisser pousser aussi.
Mm-hmm.
Maintenant, j'aimerais ça que vous me parliez un peu de vous. Je voudrais savoir comment l'aventure de Miel Éco a commencé.
Oui, bien, ça a commencé en fait aux auditions de l'Amour et dans le Pré. On s'est rencontrés, les deux, on était agriculteurs, donc David Lee, apiculteur, puis moi, je me présentais comme agricultrice. J'avais un verger de Camerise.
Okay.
Puis il y avait un retard dans les auditions, fait qu'on s'est mis à jaser. Puis finalement, ben, on s'est revus, puis on forme maintenant un couple. Et puis suite à ça, moi, je suis partie du lac Saint-Jean, je suis venue retrouver David Lee à Portneuf. Et puis, ben, on a démarré Miel Éco, et ça va faire maintenant un an et demi, presque 2 ans. Donc, c'est comme ça que ça a commencé.
Fait que toi, tu étais productrice de Camerise. Dans le nord, vous avez vraiment eu la totale de l'amour et dans le prix sans le vivre à proprement dit.
Ouais.
Est-ce que vous aimeriez ça des fois qu'ils vous comptent dans leurs statistiques de réussite quand ils disent qu'ils ont créé tant de couples?
Ah ben c'est sûr. Cette année, ils nous ont mentionné là, pour, je pense, les 10 ans là, dans l'émission. Mais oui, je pense qu'on est quand même un couple de l'amour et dans le
prix. Ah ben oui, absolument. On est contents, on se considère.
On se dedans.
mais, tu sais, sans faire, vous avez quand même fait un gros saut là, en vous lançant comme ça. Puis bon, j'entends qu'il y a eu déménagement aussi. Est-ce que c'est facile de travailler avec sa douce moitié, étant un et l'autre? Je vous écoute là-dessus.
Oui, oui. Ben, je dirais, c'est sûr que ça a ses défis.
Mm-hmm.
On ne se le cachera pas. Par contre, on est chanceux puisqu'on est deux personnes qui se complètent vraiment. Dans le sens que moi, je vais être beaucoup plus sur le terrain. Christian, vraiment, tu sais, tout ce qui est administration, c'est vraiment tout ce côté-là. Fait, là-dessus, ça va super bien. Honnêtement, je dirais peut-être le plus difficile, c'est l'hiver. Parce que ben moi, l'hiver, c'est plus tranquille. Fait que là, au niveau des ruches, là, dans ce temps-là, je tombe vraiment au niveau de la commercialisation. Mm-hmm. Par contre, là, c'est ça. Ça va bien tant qu'on gère chacun nos dossiers. Je pense que c'est la clé du succès là-dedans.
Est-ce que la réponse est la même de l'autre côté?
Oui, oui. Oui, c'est la même réponse, effectivement. Il y a des beaux défis, mais il y a plus d'avantages que de défis. Là. On est vraiment chanceux. Ouais.
Puis toi, Christina, je voyais sur la page Facebook de Miel Éco, tu as fait une petite vidéo expliquant que essentiellement tu es allergique aux abeilles.
Ouais.
Peux-tu me parler comment on conjugue ça nécessairement de devenir apicultrice et d'être allergique aux abeilles?
Oui, bien au départ, j'étais pas allergique. Fait que okay. Quand j'ai rencontré David Lee et que je suis déménagée, j'ai travaillé avec lui dans les ruches pendant une bonne année. Avant de devenir allergique. Mais quand j'ai appris ça, ben en fait, on était déjà en train de se répartir les tâches. Fait que David Lee était vraiment plus dans les ruches. Et moi, je m'occupe plus de tout ce qui est marketing, administration. Et je suis toujours à la miellerie, mais plus, disons, côté bureau.
Okay.
Et donc, ça a pas été... C'est sûr que de savoir ça, c'est un peu spécial là, quand tu travailles en apiculture, mais pour vrai... Et on s'est quand même adapté, on s'organise pour qu'il n'y ait pas trop d'abeilles aux alentours de la miellerie, de la boutique. Et puis ça fonctionne assez bien. Puis là, ben, ça me permet d'en parler parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont peur des abeilles. Fait que je pense que je suis quand même bien placée pour expliquer mm-hmm. qu'ils ne nous attaquent pas. Là, puis que même en étant allergique, on peut bien vivre dans une entreprise apicole.
Enfin, on fait juste garder un épipène pas trop loin, là, mais...
Oui, c'est ça, il y en a partout aussi.
Puis, pouvez-vous me parler un peu de votre background? Qu'est-ce qui vous a amené, bon, dans un premier cas, à choisir, de ce que j'entends, à l'origine, c'est la Camerise et l'apiculture, mais qu'est-ce qui vous a amené un peu dans le monde, dans le grand monde de l'agriculture?
Oui, bien, de mon côté, en fait, j'étais militaire. Donc, okay. J'ai été militaire là, durant 7 ans. Et puis, j'ai quitté les forces là, en 2015. 2015 en réorientation de carrière. En fait, j'ai tout le temps été passionné par tout ce qui était le côté agricole, production maraîchère principalement. Fait que j'étais allé faire un DEP à Nicolette en production horticole. Puis en même temps, je faisais un AEC avec le Collège d'Alma, donc qui se donnait les soirs. Fait que là, je faisais comme les deux formations en même temps, puis à la fin, là, je décidais que bon, le côté abeille là, m'attirait davantage. Donc, c'est pour ça que j'ai démarré, en fait, les premières ruches, je les ai eues en 2014. Fait qu'à partir de ce moment-là, c'est ça, j'ai monté le cheptel, je suis allé vraiment au niveau de la pollinisation commerciale là, pour bleuets et canneberges, principalement. Et puis, j'ai continué sur cette voie-là, aller jusqu'à cette année. Et puis, avec l'envol, en fait, de Miel Éco, là, de l'année dernière, ça a fait que cette année, on a changé notre modèle complètement. Donc, on a cessé la pollinisation commerciale. On est que sur le miel, que sur la production de miel.
Et la transformation aussi.
Oui, exactement. La transformation, puis l'agrotourisme. On vise beaucoup l'agrotourisme, faire venir les gens ici, leur expliquer aussi comment fonctionne le monde des abeilles. T'en parlais un petit peu tantôt. T'es allergique, t'es capable d'être quand même dans l'entreprise apicole. Donc, vraiment un peu ce contact, justement, avec les gens. Donc, c'est sur quoi on a décidé de focusser là, pour de maintenant et les années à venir.
Puis toi, Christina, c'est venu de où, la piqûre?
Oui, moi, j'ai été élevée sur une terre. Fait que mon père, il a eu toutes sortes de productions. Fait que dès le jeune âge, je savais que je voudrais travailler en agriculture. Puis je savais que je voulais mon entreprise. Fait que à la sortie du secondaire, je me suis inscrite à l'ITA de la Pocatière. J'ai fait mon DEC en production animale. Moi, je pensais m'en aller vraiment en production animale. Finalement, quand je suis sortie de mon cours, j'ai eu une opportunité pour être conseillère en agro-environnement dans un club conseil. Donc, j'ai accepté ce poste-là. Fait que j'ai été 4 ou 5 ans à ce poste-là en même temps qu'avoir mon entreprise avec les Camerises, jusqu'à temps de rencontrer David Lee puis de bifurquer vers l'apiculture. Mais c'est comme ça que j'ai commencé mon parcours en agriculture.
Au-delà de votre offre apicole, je disais sur votre site, vous êtes vraiment également donné la mission d'éduquer la population. On en parlait tout à l'heure avec certaines capsules, certains éléments. Est-ce que vous sentez, avec l'ampleur du défi pissenlit notamment, que l'enseignement commence à porter ses fruits tranquillement puis qu'on démystifie certains de ces éléments-là?
Oui, absolument. Mmh. Les gens, ils se rendent compte que c'est accessible. Mmh. Et c'est vraiment fascinant, là, le monde apicole. Puis aussi, on se rendait compte que les gens n'ont pas vraiment accès à ces informations-là. On s'est mis à en parler, faire des petites capsules éducatives, puis les gens y embarquent, sont intéressés, sont curieux. Donc, il y a un engouement de ce côté-là.
Ça élimine un peu aussi, j'imagine, le côté crainte ou le côté peur. Là. Il y a beaucoup de gens que, les abeilles, c'est les piqûres et le miel, et c'est tout. Là. Il n'y a pas d'entre-deux, donc... combien est-ce que vous avez de ruches? Est-ce que le nombre de ruches a diminué depuis que vous êtes passé à un mode plus, justement, pour la transformation et le miel plutôt que la pollinisation?
Oui, cette année, c'est sûr que ça a été les pertes hivernales qui ont été difficiles, comme la majorité des apiculteurs cette année. En fait, c'est ça qui a fait le plus mal, on va dire. Par contre, là, honnêtement, on vise à rester probablement plus à 1000 ruches. Ça fait que oui, donc diminuer le nombre de colonies parce que pour le marché justement dans lequel on va, c'est sûr, on a besoin un petit peu moins de colonies. Puis ça commence à être de plus en plus difficile aussi à trouver des bons endroits au niveau de la production, à être loin de certaines cultures ou de ceux qui utilisent plus d'usage de pesticides. Mm-hmm. Donc, c'est ça, en fonction de comment tout évolue, on a décidé de, oui, diminuer le nombre de ruches, mais c'est ça, d'avoir... de commercialiser justement totalement nos produits, toute notre production, puis de se diversifier aussi, pas seulement que les miels. Ça, on a les miels de spécialité, mais on a aussi d'autres, les produits transformés, puis une gamme de produits spécifiques avec des miels et des huiles essentielles. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on focus beaucoup. Donc, vraiment ouvrir un autre horizon.
Au niveau de la transformation, avez-vous des employés? Vous faites ça vous-même? J'imagine qu'à 1000 ruches, on ne peut pas faire tout, là.
Non, ben les tu sais, côté ruche, ben là, ça, c'est vraiment moi. J'ai deux travailleurs étrangers aussi qui viennent durant l'été. Au niveau de nos produits transformés, on est aussi en collaboration avec une autre entreprise de Neuville.
Okay.
Et c'est ça qui font nos produits transformés. Par la suite, ce qui est des produits, des huiles essentielles, ça, c'est fait à la ferme. Donc, souvent, c'est plus durant les mois un peu plus tranquilles, mais on reprend dessus mm-hmm. au niveau de la production. Fait que on s'assure, parce qu'en fait, c'est pas tellement long. On a juin, juillet, à août, où ce que là, ouais. on est vraiment débordé, mais le reste, ça gère très bien. Donc, on a réussi à trouver une façon là, pour fournir là, sans problème à l'année. Mm-hmm.
Puis, bon, tu parlais des taux de mortalité qui étaient anormalement hauts cette année. Est-ce que vous avez été touché comme partout, j'imagine?
Ça a été, oui, oui.
Ça a été exact. Un hiver rude, là.
Oui.
Est-ce que vous pouvez me parler un peu? Ben là, on parle plus précisément du varroa. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez me parler un peu du mode de fonctionnement de ce parasite-là? Vous savoir pourquoi est-ce que ça a impacté autant les ruchers?
Oui, ben en fait, c'est que le varroa, lui, va se développer dans le couvain. Donc, les larves d'abeilles, là, qui vont être les nouvelles abeilles qui vont naître. Le varroa, il va normalement se multiplier fois 4 à fois 5. T'sais, un varroa va donner naissance à 4 à 5 varroas par cycle de couvain.
Okay.
Donc, au début de la saison, c'est quand même assez long avant qu'il se multiplie, mais après ça, c'est exponentiel. Ça se met à doubler, à toutes les semaines, ça double de la population. Donc, à un moment donné, il devient un petit peu incontrôlable, ingérable. Donc, c'est en grande partie ce qui est arrivé là, l'année dernière. Étant donné que la saison était très, très belle, très hâtive, donc c'est sûr que ce processus-là a commencé plus tôt que la normale. Puis les traitements, même nous autres, personnellement, on s'est ajustés en fonction de la saison. Par contre, il y a eu, il y a le varroa, mais il n'y a pas que le varroa non plus.
Okay.
Là, c'est encore trop tôt là, pour se prononcer sur autre chose, là, mais je sais que le MAPAC, qui font beaucoup de recherches, sont en collaboration avec le CRESAD aussi, le Centre de recherche à Deschambault, pour essayer de déterminer, voir aussi qu'est-ce qui a pu arriver d'autre là, au niveau de la saison.
C'est ça, il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer ces taux-là. Là.
Oui, c'est ça, exactement. Il y a plusieurs facteurs.
Bon, mais là, vous en faites plus de pollinisation, mais à quel point est-ce que, j'imagine que vous parlez avec des collègues aussi, là, à quel point est-ce que c'est difficile de remplir les demandes des producteurs par rapport à ça avec les problématiques qu'on connaît?
Bien, cette année, c'est très, très difficile. Très difficile parce que justement, le nombre de colonies, encore là, il n'y a pas de chiffre officiel, mais parlant de 40 et 50 % des colonies du Québec okay. là, qui sont. C'est ça, qui n'ont pas survécu à l'hiver. Donc, en partant, on a une très grosse diminution. Puis, à la base, les producteurs de bleuets avaient déjà de la difficulté à s'approvisionner avec les ruches. Donc, c'est sûr que cette année, c'est vraiment pas évident. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a une belle collaboration entre les apiculteurs et les producteurs de bleuets. Donc, tu sais, la problématique, ils la connaissent déjà. Il y a eu des discussions, il y a eu des ententes aussi là, qui sont faites. Donc, c'est intéressant enfin de voir une belle collaboration, c'est ça, au niveau des deux secteurs qui, on va dire, dépendent l'un de l'autre là, selon le type d'entreprise qui existe. Mais donc, c'est ça, il y a au moins cet avantage-là pour cette année.
Si on y va sur une note un peu plus positive, vous vendez vos produits à votre boutique, mais vous vendez dans combien de points de vente aussi à travers le Québec?
Ben en fait, on a environ une centaine de points
ouais,
de vente.
Oui, c'est ça que j'avais
dit. Répartis au travers le Québec au complet.
Mm-hmm. Okay.
Donc, c'est sûr qu'on est très, très présent dans tout ce qui est Portneuf, Capitale-Nationale, Trois-Rivières aussi un peu, Montréal aussi.
Mm-hmm.
Donc, c'est ça. Là, c'est sûr, comme j'expliquais tantôt, ben, c'est l'hiver qu'on fait là, de tout ce qui est la mise en marché.
La distribution, là.
Exactement. Donc, comme là, en ce moment, ben, c'est ça, c'est un petit peu plus limité. Par contre, on a un livreur, là, justement, qui s'occupe de faire la distribution toutes les semaines.
Puis, est-ce que c'est facile de se renouveler dans tout ce qui est transformation, justement? À quel point est-ce que ça représente un défi de passer de un à l'autre, là, d'y aller dans vraiment tout miser sur la transformation des produits et le miel aussi, à proprement dit?
Ben, je vais donner mon opinion, puis je vais laisser. moi, personnellement, je dirais que c'est un énorme défi parce que il y a plusieurs volets, plusieurs façons de regarder ça, mais le premier, c'est que des apiculteurs, c'est merveilleux, il y en a quand même dans toutes les régions du Québec. Donc, ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Donc, Du miel du Québec, il y en a. Donc, c'est pour ça que nous autres, on ne mise pas vraiment sur la mise en marché du miel à proprement dit. Mis à part les gens qui vont venir à la boutique, notre secteur ici, Portneuf, Portneuf Capitale Nationale, mais c'est en dehors de ça, on laisse vraiment la place aux apiculteurs déjà, déjà locaux de pouvoir fournir. Exact. Nous, c'est vraiment plus au niveau de notre gamme de miel mieux-être, en fait, qui est nos miels que je parlais tantôt avec, avec des complexes d'huile essentielle. Donc, ça, c'est vraiment notre produit, je dirais, de niche à nous, qui nous démarque et qui nous permet aussi de pouvoir percer le marché québécois. Fait que, tu sais, il n'y a pas vraiment de comparable, puis c'est quand même c'est un produit qui est complexe aussi à développer. Donc, nous, on est en collaboration avec Elixir, là, qui est une entreprise ici à Grondines, là, au niveau des huiles essentielles. Ils sont dans les huiles essentielles, je ne veux pas dire d'année, mais mettons au-delà de 30 ans. Donc, ils ont vraiment développé une super de bonne expertise à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que nous autres, c'est vraiment là-dessus qu'on mise au niveau de la mise en marché, développement de produits, parce que sinon, c'est très difficile. Mon point de vue à moi, c'est que c'est très, très difficile. Puis la compétition est très forte. Il fait qu'il faut vraiment sélectionner des bons canaux de distribution. Je veux dire, on a vraiment une clientèle spécifique, des points de vente spécifiques pour ouais. Où est-ce que cette clientèle-là va. Donc, nous, on n'est pas vraiment dans les épiceries. C'est pas ce type de marché-là qu'on
c'est plus dans le spécialisé puis dans le niché, là.
Exactement, exact. Les boutiques fines, boutiques aussi de...
produits naturels.
Exactement.
Mm-hmm. Puis là, tu disais que le son de cloche allait être différent du côté de Christina, donc...
Moi, je suis d'accord, vraiment. Il faut se démarquer. C'est ça, faut trouver des façons de se démarquer. Notre gamme de miel mieux-être, c'est vraiment la façon que nous, on se démarque. Aussi, je pense, notre présence sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. On aime vraiment entretenir notre communauté, mm-hmm. puis jaser avec les gens qui nous suivent. Ça, c'est vraiment super riche pour nous, là, fait que...
Oui, puis je peux me permettre, dans le fond, c'est ça aussi, je pense, une autre de nos grosses différences, c'est que Mieleco, ben, on met des choses en place, puis on les maintient. Tu sais, on parlait du défi, puis sans lui mm-hmm. tantôt. Donc, tu sais, quand on achète les produits Mieleco aussi, c'est pas juste à quelque part. Tu sais, le miel, c'est pas juste du miel, mais c'est pas juste un produit qu'on achète, mais c'est vraiment toute la philosophie, tout ce qui est en arrière aussi, toute l'entreprise. Fait que c'est vraiment là-dessus, nous, qu'on compte. Puis aussi, quand on va voir les clients, c'est ce qu'on leur explique. Puis là, cette année, on implante des bandes fleuries, tout ça là, sur la terre pour que quand les gens viennent, on pourra venir voir aussi les façons simples de pouvoir aider les pollinisateurs. Mais, on essaye à 100% que les bobines, les bottines suivent les babines.
Les bobines. Ben oui.
Vraiment. Je pense que c'est ça qui fait notre grosse différence.
Ouais.
C'est que c'est pas juste, on n'est pas là à dire on veut juste vendre des produits, il faut que ça parte à la vanne. C'est dans les tablettes, mais non, il y a une philosophie en arrière, il y a quelque chose de plus, puis c'est ce plus-là qu'on veut mettre de la veine.
Ouais, l'entreprise nous permet d'avoir un engagement qui aide les abeilles, mm-hmm. c'est un cycle vertueux. Là.
Ouais. Tout à l'heure, tu disais que, Christina, tu disais que c'était important de se démarquer, puis de sortir un peu du cadre. Ce serait quoi? Bon, j'entendais les miels, miel nature, les miels mieux-être, oui, c'est ça. Ce serait quoi votre produit, parmi tous les produits que vous développez, que vous considériez comme étant le plus funky ou le plus audacieux, là, qui vous démarque vraiment?
Ben, ça serait la gamme des miels mieux-être. Vraiment, parce que, ben, tu sais, pour très rapidement, là, c'est que c'est du miel brut, donc un miel très, très riche, auquel est ajouté des complexes d'huile essentielle. Donc, les deux ensemble, on a un qui vient agir directement sur le système immunitaire, renforcer le système immunitaire, ou vient agir là, vraiment comme un casse-grippe. On a le bonne nuit qui vient vraiment aider, là, à, dans le fond, tout ce qui est système nerveux, à l'apaiser avant le sommeil, puis offrir une meilleure qualité de sommeil. Puis, la digestion facile qui vient, ben, comme ça le dit, là, au niveau digestif, là, vraiment, on va le prendre après le repas pour aider, en fait, pour éviter les ballonnements, les reflux gastriques. Donc, vraiment, les côtés funky, je te dirais, il y en a, tu sais, pas un plus qu'un autre dedans, mais vraiment cette gamme-là en soi.
Chaque miel mieux-être a sa fonction.
C'est ça.
Et puis là, on travaille à en développer d'autres, là. Donc, c'est vraiment des miels fonctionnels. Déjà, le miel à la base est plein de bienfaits. Mm-hmm. Donc, là, avec une synergie avec les huiles essentielles, là, c'est vraiment C'est vraiment ce qu'il y a de mieux, là. En tout cas, à notre avis.
Puis, vous disiez tantôt que vous misiez aussi sur une des portions de la business, c'est rendu l'agrotourisme. Est-ce que vous avez vu un changement? Bon, vous avez parti l'entreprise pas mal en pandémie, là, de ce que j'en comprends. Mais est-ce que c'est quelque chose sur quoi vous avez misé, vous avez vu que ça a frappé fort là, justement au cours des dernières années, que les gens sont venus vous voir puis ont sorti un peu plus dans le Québec là.
Oui, ben on l'a vu, les gens ils se déplacent, ils sont vraiment contents de rencontrer les producteurs. Ils adorent ça, être en contact, vraiment comprendre. Ils viennent à Mielerie, puis là ils voient tout notre environnement. Et ils nous posent des questions, ils sont vraiment impressionnés. Puis nous autres, ben, on adore ça, là, jaser, répondre aux questions, parce qu'en fait, on fait ça pour eux. Mm-hmm. Et donc, pour nous autres, c'est vraiment notre récompense là, de rencontrer nos clients.
Excellent. Ben, ça fait le tour de ce que j'avais à vous à jaser avec vous. Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre participation. C'est vraiment apprécié. Et puis, on souhaite... une très longue vie au défi pissenlit et on souhaite une belle saison apicole 2022.
Un gros merci à toi.
Merci. Merci. Voilà, c'est déjà la fin pour cet épisode du Son de la Terre. Je tiens à remercier nos invités Christina Fortin-Ménard et David Lee Desrochers de l'entreprise Miel Éco, ainsi que Myriam Laplante El-Aïli pour leur participation et pour leur générosité. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des idées d'invités, n'hésitez surtout pas à nous écrire au balado@laterre.ca ou encore à nous envoyer un message sur la page Facebook de La Terre de chez nous. Je vais terminer en vous souhaitant de nouveau une bonne saison des travaux au champ et je vous dis à la prochaine.